Aujourd'hui, direction Bagnolet, dans les bureaux d'Off2 pour rencontrer la journaliste Lise Gomise. J'ai bien mis 10 minutes avant de trouver l'entrée du bâtiment, mais me voilà enfin arrivée.
Le Red Bulletin.
Bonjour Lise Gomise, vous êtes journaliste, réalisatrice et fondatrice de la revue Off2. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup.
Après avoir travaillé à la radio chez Nova et à la télévision pour Canal+, vous revenez aujourd'hui avec un nouveau projet, Off2, une revue biannuelle, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
Pourquoi avoir créé cette revue ?
Alors j'ai créé cette revue un peu avec l'énergie du confinement, parce que donc en mars, c'était quelle année d'ailleurs, 2020, on se retrouve tous bloqués chez nous. Et c'est vrai que c'était une idée que j'avais en tête depuis quand même pas mal d'années. Et le fait d'être un peu dans l'inertie la plus totale, de ne pas savoir quel était notre futur, je me suis dit, c'est le moment en fait, de lancer un produit culturel, entre guillemets, qui resterait dans le temps. J'aurais pu me lancer sur du web et faire un site web, mais bon, j'aime pas trop la notion éphémère que ça donne finalement d'écrire sur un site web. En plus, les news, elles vont tellement vite avec tous les réseaux sociaux que le temps de publier, le lendemain, elle est quasi obsolète, la news. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de partir sur ce rapport-là, j'ai envie de partir sur du temps long et surtout, j'ai envie d'archiver parce que, évidemment, mon sujet premier, c'était sûr que ça allait être à destination de l'Afrique, entre guillemets. Et je me suis dit, ce qui nous manque, c'est l'archivage. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu arriver par le passé, en termes d'archivage, c'est hyper dur aujourd'hui de mettre la main dessus, que ce soit les archives audiovisuelles, que ce soit les magazines, même les livres parfois. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour commencer à archiver maintenant pour plus tard? Et je me suis dit qu'il n'y avait que le print qui permettait ça, ou le film, mais le film ça coûte beaucoup trop cher, et dans le temps, dans la position dans laquelle j'étais, le plus simple pour moi c'était de faire un magazine, et c'est comme ça que j'ai décidé de appeler des copines et de se dire est-ce qu'on ne ferait pas un magazine sur l'Afrique dans sa contemporanéité. Oui.
Quand on ouvre les pages, on arrive sur ce continent. On parcourt des portraits, on traverse des quartiers. Et en fait, on se rend compte que chaque numéro est consacré à une ville. La première ville, c'était Accra, la capitale du Ghana. Et la revue numéro 2 est consacrée à Kinshasa. Comment vous choisissez les villes que vous avez envie de mettre en valeur ?
Alors, je pars un peu sur le coup de cœur. Comme je disais, j'étais donc bloquée à Paris. J'avais l'envie d'aller à Accra. Et en fait, pas de possibilité de bouger. Et Accra, c'est une ville que j'aime particulièrement depuis, je crois, 2016. J'y suis quasiment allée une fois par an. J'ai des amis là-bas, j'ai des repères aussi. Et je ne sais pas, en termes de dynamisme culturel, c'est vraiment une ville qui me convient. J'aime le rapport entre... c'est une ville anglophone et c'est un pays qui est entouré de pays francophones. Donc il y a quand même cette West African flavor que j'aime beaucoup. Et en même temps, ça a le dynamisme des pays anglophones que je peux retrouver à Nairobi ou à Kampala en Ouganda. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte quand même sur une ville qui parle un peu à tout le monde. Et le Ghana, la particularité du moment, là, depuis 2019, c'est que leur président a fait la meilleure opération marketing qui puisse exister avec The Year of the Return et Beyond the Return. Et maintenant même, ils ont sorti le drapeau de la diaspora. Ce qui fait que, en fait, les lights, elles ont été posées sur cette ville parce qu'il y a eu plein d'artistes qui sont venus, de Naomi Campbell à la mère de Beyoncé, à Jay Dena, là récemment c'était Chance the Rapper, et je me disais, il faut quand même une ville qui donne envie de dépasser le cliché, c'est l'Afrique, c'est des pandémies, des dictateurs et tout ça, et je savais que culturellement j'allais y trouver un terreau hyper fertile, parce que musicalement c'est dynamique, Accra pareil maintenant en termes de films, il y a pas mal de réalisateurs qui émergent, des photographes géniaux. Joshua Kissi, par exemple, qui habite à New York maintenant, c'est vraiment un type de là-bas. Et donc, j'ai fait, OK, on va faire Accra parce que, pour le moment, en tout cas, en ce moment-là, c'est la ville qui pulse sur le continent africain. Et en plus, ça tombe bien, c'est vraiment une ville que j'adore.
Et Kinshasa ?
Et alors Kinshasa, c'est différent. Donc en parlant à tout le monde, déjà je voulais changer de zone. Je voulais plus faire un... J'avais fait un pays anglophone, donc le Ghana. Et je me suis dit, il faut quand même aller explorer ce continent dans toute sa diversité linguistique. Et je voulais déjà changer de langage en me disant, bon, on a fait le côté anglophone, il faudrait qu'on aille peut-être du côté francophone ou lusophone. Et en parlant avec un ami, il me dit, mais pourquoi tu fais pas Kinshasa ? Et je lui dis, ouais, mais j'ai pas trop de repères là-bas. Je sais que culturellement, c'est fort. En tout cas, musicalement, Kinshasa, c'est une place forte. Et puis même en termes de créativité, d'art contemporain. Et il me dit, mais attends, c'est la plus grosse ville francophone. Il y a un génie là-bas qu'il faut aller absolument... un génie créatif, il faut aller explorer. Et en fait, en allant... l'histoire, elle est folle. C'est que on me file un plan pour aller interviewer Marie Scondé. Évidemment, je dis pas non. Et donc, il fallait l'interviewer chez elle parce qu'elle est un peu malade. Et il me fallait une photographe. Donc, la Nigérienne qui m'a donné ce gig me dit, il faut absolument que ce soit une photographe et si possible, une femme noire parce que voilà, je fais un festival de littérature. Je mets en avant les femmes noires dans la création. J'aimerais bien que ce soit ça. Donc, moi, je trouve une photographe. Et donc, je vais la chercher à la gare d'Avignon. Et puis je lui montre le magazine, le numéro 1, Accra. Je lui dis, ouais, je travaille sur un prochain. Et puis, je sais pas, j'hésite, Kinshasa. Et elle me dit, mais moi, je suis de Kinshasa. Et en fait, là, je me dis, c'est un signe. Je m'avance pas trop parce que je suis pas sûre de mon coup. Ensuite, on est encore en confinement. Et là, je me dis, mais en fait, moi, je peux pas voyager. Mais elle est congolaise, donc elle a le passeport. En plus, c'est une superbe photographe. Bon, bah, vas-y, let's go, on le fait, quoi. Donc, je l'envoie à Kinshasa. Et en fait, on monte toute l'opération, en tout cas, de toute l'iconographie entre WhatsApp et les mails. Elle habite Marseille. Mais donc, elle part à Kinshasa. Moi, j'avais déjà spoté des gens sur Instagram. Je savais ce que je voulais comme couverture. J'avais la direction, mais comme j'étais pas là-bas, c'était compliqué pour moi d'avoir la vision à 360. Et le fait de l'avoir envoyé là-bas, d'avoir les mêmes codes qu'elle, eh ben moi, ça m'a permis finalement, enfin, elle est devenue mes yeux et mes oreilles. Et donc, on a fait le magazine, je dirais qu'on a rempli... 70% du magazine en photo, juste parce qu'elle est partie là-bas et qu'elle a rencontré les gens en direct. Et j'avais aussi une rédactrice en chef invitée qui s'appelle Ifrikia Kenge, qui elle est de Brazzaville, mais connaît bien Kinshasa pour y avoir travaillé, et elle connaît aussi tout le monde. Et c'est donc avec ces deux filles-là qu'on a fait le magazine. Moi depuis Paris, Ifrikia depuis Ouaga, parce qu'elle est basée à Ouaga, et Prisca qu'on a envoyée à Kinshasa.
Finalement, ces connexions, c'est l'essence même d'OFTOO. Vous qui êtes basé à Paris, certains dans d'autres pays africains, vous créez un dialogue. Dans l'édito, tu parles d'une conversation autour de nos futurs. J'aimerais savoir qui est ce nous, à qui s'adresse le magazine. Parce que toi, tu es francophone, même si tu es d'origine...
Bissau-Guinéenne.
C'est ça. Et comment ça se passe, en fait? Comment on crée un dialogue sain? Comment on déconstruit l'image qu'on peut avoir dans les médias de ce continent?
Bah alors, cette conversation pour nos futurs en commun, c'est vraiment... Moi, j'ai pensé le magazine en me disant, je l'adresse d'abord aux gens de la diaspora. Pourquoi ? Parce que moi, je suis né en France, de parents bissau-guinéens, passé par le Sénégal. Donc, j'ai une histoire entre la France, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et je me rends compte que aujourd'hui j'ai 41 ans. J'ai connu la première fois que j'ai mis mon pied sur le continent africain, j'avais 21 ans. C'était avec l'école. La première fois que je vais dans mon village, le village de mon père, j'ai 25 ans. C'est pour le décès de mon père. Et en fait, mon cerveau, il a un peu shifté à cette période-là en me disant, mais en fait, je sais même pas finalement d'où je viens et je comprends pas les enjeux, quoi. Moi, je suis né avec une vision complètement occidentale du truc. J'ai été nourri par les images qu'on m'a servies à la télé, dans les médias français et occidentaux. Et forcément, j'avais un regard un peu biaisé sur ce qu'était ce continent parce que j'avais en tête que des images, encore une fois, hyper négatives de pandémie, de coups d'État, de dictateurs lambda. J'ai jamais vu ce continent quand j'étais plus jeune sous un prisme, mais même pas positif en fait, juste sous un prisme objectif de effectivement il y a des pandémies, la preuve là mondialement on a tous connu ça. Effectivement il peut y avoir des coups d'État ou des tensions politiques. Bah tu vois là en ce moment l'Ukraine, la Russie, on est dans la même chose, mais on en parlait qu'en direction de l'Afrique. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ce magazine, c'est ça. Quel magazine j'aurais aimé lire quand j'avais 25 ans ? Comment j'aurais aimé qu'on parle de l'Afrique quand j'avais 25 ans. Et c'est ce que je me suis mis en tête, et c'est pour ça que mes, ceux qui écrivent dans le magazine, ceux qui prennent les photos, ils sont largement plus jeunes que moi. Je dirais que la moyenne d'âge, c'est peut-être 28 ans. Parce que j'ai besoin d'avoir un regard un peu neuf, j'ai besoin d'avoir le regard de ceux qui font la ville et ceux qui se posent ces questions, les bonnes questions, ceux qui sont nés largement après la colonisation, ceux qui sont en train de décider ce futur qu'on est en train de construire. Pardon. Et quand je dis « nous », c'est « nous, diaspora », et « nous, nous Africains d'Afrique sur place ». Et évidemment, j'invite le reste du monde à participer à cette conversation. Mais pour une fois, je demande à ceux qui sont nés, je dirais, dans le nord global, de faire un pas de côté et de laisser, ces jeunes Africains s'exprimer sur leur ville, sur leur vie et sur leur futur. En fait, là, moi, tout ce que je demande, c'est une espèce de position de... Là, on accepte juste de ne pas être connaisseur et de laisser les vrais experts de leur propre vie parler au lieu d'envoyer trois correspondants franco-français partir là-bas avec toujours un regard un peu biaisé sur les choses et revenir avec des news. Ce matin, il y avait une news dans le New York Times sur la CAN. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et le titre, c'est « Entre les coups d'État, les pandémies et je ne sais plus trop quoi, l'Afrique a décidé de se consacrer à une seule chose, enjoyment, quoi. » Je suis là, c'est ça ton titre, quoi ? C'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire « Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations après deux finales manquées, c'est la troisième, et là, ils ont réussi à remporter le truc. » Et juste parler de ça et pas toujours relier ce continent à un truc super négatif, pandémie, coup d'État. En gros, les mecs, vous avez plus important à faire. Pourquoi vous êtes en train de pourquoi vous sortez dans la rue pour célébrer une Coupe du Monde ? Je suis là, mais c'est quel délire ça ? Quand les Français ils ont gagné la Coupe du Monde, il y avait des problèmes économiques, il y avait des mecs qui étaient non mais tu vois c'est tous ces trucs là en fait qui me saoulent et que je me dis tu sais quoi, on va faire le magazine et nous on va raconter ce qu'on a envie de raconter et de la manière dont on va le raconter et personne ne nous mettra de filtre sur cette réalité qu'on vit.
C'est aussi une manière de magnifier, on va dire, ce continent et tous les gens qui le peuplent. C'est drôle parce que du coup, tu parles de cette diaspora, et cette diaspora, c'est beaucoup de femmes, surtout dans Off Too.
C'est clair, sans le faire exprès.
Dans ton choix aussi d'équipe, la troisième invitée pour le prochain numéro s'appelle Rémi Bush, c'est aussi une femme.
Honnêtement, j'y avais même pas pensé quand j'ai commencé. C'est juste que, ne serait-ce que la façon dont le magazine s'est lancé, j'ai fait appel à des personnes en qui j'ai une confiance aveugle. Et il s'avère que c'est quatre personnes, en l'occurrence, c'était quatre femmes. Sarah Ancoli, qui vit à Londres, qui est guinéo-sénégalo-malienne. Ensuite, Ndeye Djerad Diobaye, qui est sénégalaise. Sophia Doudine, elle est marocaine. Et Leïla de Kassimaker, qui est franco-algérienne. Vraiment, c'était pas du tout fait exprès. On s'est fait un gros brainstorming parce que j'avais besoin de leur cerveau pour penser le concept convenablement. Et après, quand j'ai commencé mes recherches, la même chose, j'ai appelé à Accra, j'ai appelé ma pote Sandy de Surf Ghana. Et Sandy, pareil, elle a convoqué son network à elle et il s'avère que nos networks, finalement, en tout cas professionnels, ce ne sont que des femmes. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Et pareil pour le Kinshasa, la première personne à qui je pense, c'est Ifrika, parce que c'est la première Congolaise que je connais. J'ai bossé avec elle dans des conditions, justement, moi, je donnais des cours de vidéo, elle, de journalisme. Pour moi, c'était évident que j'allais appeler cette fille-là. Après, oui, il y a des hommes qui se greffent à l'histoire, mais c'est vrai que la majeure partie de l'équipe, que ce soit les traductions avec Ruth Tafébé, elle est à Abidjan, Emma Kahn, elle est à Londres. J'ai que des femmes, j'y peux rien. Mais ouais, c'est génial. Moi, je suis plutôt fière de ça. Et puis, je suis même fière du travail qu'on réussit à faire ensemble parce qu'on va tous vers la même direction. Et je sais pas, on est dans le même état d'esprit et ça marche. Alors, je vois pas pourquoi j'arrêterais.
Est-ce que dans tout ça, il y a une histoire, un portrait qui vous a particulièrement touché où vous vous êtes dit, elle, il faut absolument qu'elle soit dans le magazine?
Sur Accra, il y a une femme que je voulais absolument avoir dans le magazine, c'est Odile Tévi, qui est la boss de Nubuké Foundation, parce que c'est une institution muséale et culturelle qu'il faut absolument voir quand on est à Accra. Ne serait-ce que architecturalement, c'est assez dingue, cette espèce de bloc de bitume dans une oasis et une espèce de jardin absolument luxurieux et beau. Je voulais la voir parce que parce que pour moi, c'est un exemple. Elle a bravé je ne sais pas combien d'obstacles pour pouvoir faire cette fondation. Elle est dans le monde de l'art contemporain depuis je ne sais même pas combien d'années. Et c'est quelqu'un que j'admire parce que malgré tous les obstacles, puisque au Ghana, on n'a pas cette politique publique pour aider la culture. D'ailleurs, dans quasi tous les pays d'Afrique. Donc, on n'a pas le même rapport à l'ingénierie culturelle qu'en France, par exemple. En France, tu sais que tu vas pouvoir te retourner, trouver une subvention de scie avec le ministère de la Culture ou une DRAC ou un truc comme ça. Là-bas, il n'y a pas. Donc, il faut faire du début à la fin. Il faut être ingénieux, il faut être créatif pour pouvoir monter de telles institutions. Et Nubuki Foundation, c'est tellement big que pour moi, c'était impensable de faire un numéro sur Accra sans parler de Odile TV.
C'est une femme qui fait bouger les lignes, à l'image de celle qu'on retrouve dans cette mini-série que tu as réalisée, qui s'appelle Africa Demain et qui est diffusée depuis juillet 2021. Et qui du coup s'inscrit un peu en opposition à Off2, puisque dans Off2, on est sur du print, on est sur une mise en abîme de personnes qui sont déjà installées, qui ont déjà une reconnaissance plus ou moins professionnelle, qui ont une voix tout simplement. Et puis du coup, Africa Demain, on reste quand même dans cette dynamique de « on montre la réalité », mais c'est la réalité d'une jeunesse qui est plutôt en marche, qui essaye de se construire. Ce sont des projets qui vivent au même moment. Tu les as pensés ensemble pour qu'ils ne fassent qu'un, ou tu les considères vraiment comme deux projets uniques et à part entière ?
En vrai, tout ce que je fais est lié. Que ce soit effectivement les séries web Africa Demain sur France TV / ou Africa Riding qu'on a réalisé pour Arte en 2019 et le magazine, tout est lié. C'est un peu mon cerveau qui s'adapte un peu au médium et aussi les fenêtres que j'arrive à... Enfin, les portes que j'arrive à ouvrir. Africa Demain, j'ai voulu le faire parce que donc, je suis amie avec cet artiste qui s'appelle Muthoni Drummer Queen. Et après avoir passé, c'était en 2018, je suis allée à Nairobi avec elle et j'ai passé une journée absolument dingo avec cette femme. Je l'appelle la mère de Nairobi parce qu'elle connaît absolument tout le monde. C'est la boss de deux énormes festivals. Blankets and Wines qui fête, je pense maintenant c'est 12 ou 13 ans, et Africa Nouveau. Blankets and Wines, l'anniversaire, c'était, je crois que c'était plus de 6000 personnes, quelque chose comme ça. Et de me dire que cette fille, elle est boss de deux festivals qui drainent des milliers de jeunes, que c'est une, elle est toujours, enfin c'est elle qui lance les tendances aussi à Nairobi, et de me dire que elle, au-delà des frontières est-africaines, elle est connue mais juste un peu. Je me dis c'est une hérésie, c'est pas possible, c'est une boss lady qui fait des choses absolument dingo. Et on ne le sait pas plus que ça, parce que dans l'imaginaire de tout le monde, une femme africaine, eh ben elle vend ou des tomates sur le bas de la route, ou elle a monté une coopérative, elle fait du tissage. Et puis, il y a une femme qui fait de la déco, qui vient et lui acheter ses productions et les présente dans un salon à Paris, la Porte de Champéret, maison et objet. Et je me dis... Non, mais en fait, on ne peut pas rester dans cette dynamique-là, ce n'est pas possible. Déjà, j'aimerais montrer des femmes qui sont comme moi, finalement. Tu vois, avec Muthoni, on est raccord sur tellement de choses, sur la façon d'entreprendre, sur le comment on parle à une génération plus jeune que la nôtre, comment on s'impose aussi à la fois dans l'espace public, le débat public, comment on laisse des traces, comment on archive. On est raccord sur tout. Et je me suis dit, mais en fait, au final, c'est un peu égoïste parce que c'est... Quelque part, c'est raconter mon histoire à travers ces filles-là. Alors qu'on vit sur deux continents complètement différents. Mais il y a de ça, en fait. Il y a de ça, Stacy, et le sport, c'est aussi ça. C'est aussi un peu mon histoire. Celle qui est à Nairobi, qui vit dans ce slum qui s'appelle Kariobangi, c'est aussi ça. Et pour moi, c'était important de les montrer... avec de belles images, filmées d'une manière... Enfin voilà, on n'est pas en train de faire un film sur l'humanitaire. Moi, je veux qu'on les voit, qu'elles soient magnifiées, qu'elles soient belles et qu'elles donnent envie aussi. C'était un peu ça. Et vraiment, en vrai, tous mes projets, ils sont reliés. Là, j'ai été invitée, je suis hyper contente. Au mois d'avril, je vais faire une expo à la galerie 31 Project Art. Et c'est dans la même veine. Le thème de mon expo, c'est la phrase d'Ousmane Sembène: « Je suis moi-même le soleil ». Pourquoi ? Parce que mon idée première, c'est toujours de dire aux gens, décentrez-vous, quoi. Décentrez-vous. Moi, je fais ce travail-là quotidiennement. Comme je dis, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai une vision complètement occidentale des choses. Mais tous les jours, j'essaye de me décentrer en me disant, je suis pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est pas Paris 11e, quoi. Et en fait, le message, c'est ça, c'est vraiment décentrez-vous. Et donc, forcément, je suis allée chercher des artistes émergents, dont par exemple Valérie Asimwe, qui est tanzanienne, qui en ce moment est en résidence à Londres. Elle est pas connue, elle commence seulement, mais le message qu'elle porte, il est hyper fort. Il y a Léonard Pongo, qui est un belgo-congolais. Il est absolument génial dans son travail. Et après, il y a d'autres artistes qui sont plus confirmés, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Arrêtons de penser l'art occidental comme le centre, en tout cas la référence. Et c'est un peu aussi un pied de nez pour dire votre histoire d'universalisme. Là, il va falloir qu'on arrête 2 secondes parce que l'universalisme vu depuis Paris, depuis l'Académie française, depuis, je ne sais pas moi, les institutions françaises, c'est une belle arnaque en fait. C'est une belle arnaque parce que moi, si je me place à Cape Town ou à Johannesburg, mon universalisme, ce n'est pas le même. Donc, à un moment donné, on a le droit d'être différent, on a le droit d'avoir... d'être multilayered, d'avoir plusieurs couches. Et tout ça, ça s'additionne, ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas. Et donc, tous mes travaux, finalement, c'est une histoire de décentrer son regard. Quand je fais ces séries-là pour France Télévisions, c'est pour dire à la conseillère de programme ou au conseiller de programme, arrête de croire que je vais t'amener un projet sur l'Afrique avec des petits cons de la mort envenés et des mouches qui leur tournent autour de la tête. Non. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Donc moi, je vais t'amener sur un autre sillon et tu vas découvrir quelque chose. Preuve en est, quand j'ai fait le premier pilote d'Africa Riding, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça le Sénégal. Mais qu'est-ce que tu pensais du Sénégal finalement ?
Aïe.
Ah, dis donc, au Rwanda, ils ont des routes clean.
Non, non, non.
Bah ouais. Donc c'est vraiment ça ma... En fait, c'est comme si quelque part, je me sens un peu... Je suis en mission, quoi. Je suis en mission, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que les gens puissent rester ignorants comme ça parce que tout le monde a ses peurs et il y a beaucoup de gens qui ne passent même pas le pas en se disant je vais prendre un billet d'avion et je vais aller visiter la Tanzanie, par exemple. Alors si, ils vont aller à Zanzibar parce que tout est clean, c'est des resorts de 5 étoiles, mais venez à Dar es Salaam. Venez rencontrer les gens à Dar es Salaam, c'est autre chose.
La Tanzanie, le prochain numéro.
Le prochain off-tout, oui.
Yes.
Prochain off-tout, coup de cœur, je suis allée voir une copine qui s'installait là-bas en juillet. Évidemment, c'est la force du réseau. Les gens d'Off2Mag me disent, des lecteurs d'Off2Mag me disent « Ah, tu pars en Tanzanie, il faudrait que tu rencontres un tel et un tel. » Et dans le un tel, il y a eu Rémi Bush, justement, Réma Bush, de son vrai nom. Et en fait, ça a été un coup de cœur, elle et moi, parce que, pareil, même vécu, elle est née en Tanzanie. Donc c'est un peu différent de moi. Elle a grandi en Allemagne, elle est retournée en Tanzanie il y a peut-être maintenant 6 ou 7 ans, donc elle s'est replongée dans le bain. Et en fait, moi je l'appelle Nokia, Connecting People, elle connaît tout le monde. Dans la sphère créative, Rémi, c'est devenu une référence parce que c'est un peu une grande sœur, parce qu'elle aide aussi à parfois certains jeunes à se... à prendre un peu de points, de charisme, savoir écrire un projet, se professionnaliser. Et elle a un peu ce rôle-là. Donc pour moi, c'était la parfaite rédactrice en chef, même si elle n'est pas journaliste, parce que en termes de connexion, c'est facile. Parce qu'elle est en train de construire un projet qui va au-delà du magazine. Et son projet, c'est vraiment de devenir... c'est même pas de devenir, elle est... C'est une spécialiste en ingénierie culturelle et son but, c'est de faire grossir la scène créative là-bas qui, parfois a du mal à passer les frontières de la Tanzanie, ne serait-ce qu'au Kenya. C'est tellement une place forte, le Kenya, que la Tanzanie, ça semble tout petit. Donc voilà, elle travaille à ça et je suis super heureuse de travailler avec elle.
En quelques mots, toi qui observes la jeunesse africaine et les différents mouvements culturels, qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui dans notre société ?
C'est le fait de ne pas avoir peur, en fait. On fait le numéro sur Kinshasa. L'artiste Junior Mvunzi, celui qui a construit les ailes de notre super-héros en couverture, ce qui se passe pour lui, c'est que s'il avance pas, il se passe rien. C'est la dèche. Donc en fait, il est drivé par une espèce de force, c'est quasiment mystique. C'est quasiment mystique ce truc de... Tu n'as pas le choix, donc tu vas avancer, tu vas aller tout droit, tu vas pas te dire « Ouais, mais j'ai pas les fonds pour commencer, c'est dur. Ouais, mais tu vois, la carte Navigo, c'est 70 balles le mois, je sais pas comment je vais faire. Ah ouais, mais tu vois, ils m'ont refusé la subvention. Ah ouais, mais il faut que je fasse d'abord une association. » Il se pose pas ces questions-là, il fait seulement. il fait. Je te dis pas qu'il obtient toujours les résultats et que c'est facile, parce que c'est pas vrai, c'est même plutôt dur. Mais en fait, il fait avancer son art tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans se poser la question de c'est dur. Bien sûr que quand on a fait le magazine, la première chose qu'il m'a exposé, c'est ouais, ma sœur, ici c'est la dèche, quoi. Donc combien tu me payes ? Mais j'ai aucun problème à discuter ça. Lui, il est en train de négocier son truc et moi, je suis aussi en train de faire un magazine. Donc évidemment qu'on va se parler. Et je le précise, dans mon magazine, tout le monde est payé. Tout le monde est payé. Il n'y a pas de tu as relu un texte bénévolement. Non, tous ceux qui travaillent sur le magazine sont payés. J'y tiens parce que je me dis, c'est, enfin, cette mentalité de se dire non, mais parce que c'est l'Afrique, c'est moins cher ou mais non, c'est bon, je lui fais de la promo. Il faut arrêter le délire de la promo. La promo, ça paye pas, ça paye pas l'électricité et les factures. Donc tout le monde est payé. D'une part, parce que ça permet de mettre les gens dans une dynamique. Au moins, je sais qu'on va me rendre le travail comme il faut. Et aussi, c'est pour respecter les gens en face de moi. Et je n'ai pas des tarifs pour l'Europe et des tarifs pour l'Afrique. C'est les mêmes tarifs pour tout le monde. Et après, je ne suis pas Paris Match ou je ne sais pas quel autre magazine. Donc évidemment, je n'ai pas les mêmes standards, en tout cas en termes de tarifs. Mais je ne paye pas non plus au lance-pierre. C'est correct ce que je fais. Je suis même au tarif syndical ici en France. Donc il y en a parfois qui hallucinent en disant « Attends, tu payes tant ? Ok, je veux bien bosser pour toi. » Donc voilà, moi je me tue au travail, je récupère les fonds comme je peux et je réinjecte ça dans le magazine. Et comme ça, on fait ça tous ensemble et vraiment, c'est une histoire de mouvement. J'ai envie qu'on grandisse ensemble, j'ai envie que le network, on le construise ensemble. Plus que j'ai juste fait un magazine et puis moi, je parade partout en disant c'est mon magazine. En fait, c'est pas mon magazine, c'est notre magazine. C'est vraiment comme ça que je pense.
Là, on a parcouru en long en travers les messages que Off2 veut transmettre, est-ce que la revue veut créer. Mais moi, j'aimerais revenir sur une citation de Myriam Makeba, qui est une chanteuse sud-africaine, que tu mets en avant sur le site web d'Off2, où elle dit « Africa has her mysteries, and even a wise man cannot understand them, but a wise man respects them. » C'est une phrase quasi philosophique. Elle représente quoi pour toi ?
Pour moi, ça résume tout. Il y a quelques années, je suis allée au Togo avec des potes. Et dans le flow, j'avais un pote qui tout le temps critiquait tout. Mais pas critiquer parce que en négatif, c'est juste que je pense qu'il était un peu... il débarquait. Et à un moment donné, ça m'a tellement saoulée, je lui dis, en fait, tu sais quoi là ? Il faut que tu enlèves tes lunettes de français. Il faut que tu enlèves ces lunettes-là et que tu te mettes dans le mood. On était au Bénin, pardon. Je dis, il faut que tu te mettes dans le mood du Bénin. Parce que je ne peux pas entendre tous les jours « Ah, ce truc-là, c'est marrant, hi, 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 ah, nanana, hi, 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 hi. » Je suis là, 2 secondes, pose-toi, décentre-toi, enlève les lunettes, mets-toi dans le mood et tu verras les choses différemment. Évidemment, ce sont des réalités qui sont complètement différentes, mais si on part là-bas avec ces références de type de, je ne sais pas moi, du 5e arrondissement ou du 11e, ça ne marche pas. C'est une histoire d'humilité. C'est pour ça que quand elle dit « but a wise man respect them », c'est vraiment ça, c'est respecte la réalité de gens qui te sont complètement différents et tu vas voir, en fait, ça va bien se passer. Et oui, parfois, il y aura une coupure d'électricité. La première fois, ça va te saouler et la seconde fois, en fait, tu vas te rendre compte que ton voisin y gère, le fils de l'autre voisin y gère, que tout le monde gère et que tu es le seul à être emmerdé par le fait que l'électricité est coupée. Bon. La première fois, t'es choqué. La seconde fois, en fait, ça glisse et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, tu t'y fais, en fait. Tu t'y fais et t'es entré dans le moule. Tu t'es, entre guillemets, tropicalisé. Et c'est vraiment ça. C'est une histoire de... il y a plein de mystères sur ce continent. Il y a plein de choses qui sont pas... je sais même pas comment dire, qui sont même pas perceptibles par un œil complètement novice. Mais si tu veux vraiment, tu te mets dans une position d'humilité... Et en fait, t'acceptes la réalité et t'enlèves tes lunettes complètement biaisées. Et tu verras, c'est facile en fait. C'est facile. Et on fait la même chose quand on va au Japon. C'est une culture qui nous est complètement différente. Mais par contre, on n'a aucun problème là-bas quand on est là-bas à se dire « Ah non, il faut que je respecte. Tu as vu, les Japonais, ils disent bonjour de telle manière. Il faut que j'enlève mes chaussures, ce genre de choses. » Mais en revanche, on n'est pas capable de faire ça quand on va en Afrique. Et moi, ça, là, ça me perturbe un peu. Je me dis « C'est quand même fou. » Et évidemment, ça, c'est dû à hein, la façon dont on a été éduqué sur le sujet, quoi. C'est, on a toujours un point de vue surplombant quand on parle d'Afrique et des Africains. On les prend jamais au sérieux. Et c'est pour ça que ce magazine, je veux absolument qu'il soit super carré. Donc, je me prends la tête sur les photos, je me prends la tête sur le papier, je me prends la tête sur la maquette, parce que je veux dire à tout le monde, maintenant, ça suffit les conneries. Respectez-nous, quoi, en fait, tout simplement.
Une revue que l'on peut acheter directement sur le site dove2mag.com et qu'on peut retrouver également en librairie.
Exactement. On peut le retrouver au Palais de Tokyo, on peut le retrouver à la Cité de l'Architecture, on peut le retrouver chez Maison Château Rouge, chez Cahiers Central dans le 5e arrondissement, chez Présence Africaine, on peut le trouver à New York, à McNally Jackson, à Accra, chez El Loco, au Sénégal, chez Lulu, bientôt en Tanzanie. Bref, on continue, on essaye de trouver des points de vente. Même à Barcelone, il est, tiens, j'avais oublié.
Je te remercie énormément, Elise Gomis, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté. Et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.